Bonjour et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, et bien on arrive au terme, c'est la dernière émission de la saison, ça fait drôle déjà, le temps a passé vite. Et au sommaire de cette émission, et bien dans la première partie, nous allons vous faire une rubrique spéciale Lire pas cher pour enjoliver vos moments de plage avec de bons polars. Donc c'est un numéro pré-estival hein, ou estival, et c'est une période où tout naturellement on a un peu plus de temps pour lire. En gros, une sélection de rééditions pour une boulimie de lecture à petit prix. On a eu, alors on va prendre collection par collection, hein, on a eu un printemps de grande qualité chez Paillot Rivage. En gros, c'est, en général, c'est 4 saisons de grande qualité chez Paillot Rivage. Mais bon, c'est vrai que là, il y en a beaucoup des très bons. La dernière émission, Jean-Marc nous avait parlé en détail de la réédition de la trilogie de William McIlvaney. Cette trilogie consacrée à l'inspecteur Ledlow. Donc là, je la re-recommande. Hein. Il y a donc 3 livres. Faut les lire dans l'ordre, tant qu'à faire. Ledlow, Étrange Loyauté, Les Papiers de Tony Vetch. Ça se passe à Glasgow. C'est à la fois du roman social, des enquêtes, du polar. C'est très bien fait. Ça a une 40aine d'années et ça n'a pas pris une ride. Deuxième réédition. Bien que la première édition soit tellement ancienne qu'on pourrait penser à une première édition, c'est un roman de Donald Westlake. La pomme de discorde. En fait, elle a été initialement traduite sous un autre titre, à la série noire. Ça s'appelait Alerte aux dingues, et c'était même pas sous le nom de Donald Westlake, mais sous un de ses pseudos célèbres, Tucker Co. Tucker Co, il l'utilise en particulier pour les aventures de son ex-flic Mitch Tobin. Et vous allez voir que dans ce roman, il n'y a pas que son cambriolaire Dortmunder qui a la guigne, qui a la malchance. Tobin, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très net. Il a des problèmes psychologiques. Donc tout naturellement, on va lui confier une mission, une enquête, dans un asile d'aliénés où il va être accepté. Et là, il va lui arriver malheur sur malheur. Est-ce qu'il va réussir sa mission? Ben, vous le saurez en lisant. Donc, La Pomme de Discorde, c'est chez Rivage Noir. Celui que je vous recommande.
Un grand livre.
Un grand livre, très grand livre. On en avait parlé longuement en 2014 à sa sortie. Et il a la bonne idée de ressortir un an après, après la guerre, d'Hervé Lecor. Hervé Lecor, il s'est tellement bien parlé des humbles, des petits, des gens qui ont les cœurs déchiquetés. C'est le titre d'un de ses précédents romans. Ici, il va vous narrer quelques destins tordus qui vont se croiser dans les années 50. Une génération d'hommes et de femmes, de jeunes gens aussi, qui ne se remettent pas de l'occupation et des nazis et qui doivent maintenant affronter la guerre d'Algérie. Ils doivent aussi affronter la naissance de l'ultra-capitalisme. Ça aussi, on voit ces gens, on voit encore la solidarité des communistes, la solidarité sociale qui petit à petit va se déliter au fur et à mesure des décennies pour en arriver à ce qu'on sait maintenant. C'est un roman totalement bouleversant, pétri d'humanité et servi par une écriture absolument magnifique de l'écrivain bordelais qui est vraiment au sommet de son art.
Une écriture que l'on peut qualifier de ciselée, n'est-ce pas?
Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'avais écrit. Bravo, Jacques. Autre très belle écriture, celle de James Lee Burke, qui nous entraîne une fois de plus avec ce roman paru, donc qui vient de paraître chez Rivage Noir. Ce roman s'appelle L'Arc-en-ciel de verre, et donc il nous entraîne dans les bayous louisianais avec son personnage Dave Robichaud. On en est au 15e, 17e, je ne sais pas compter, mais c'est un personnage qu'on aime beaucoup et qu'on commence à bien connaître.
Et il n'en a pas fini parce que malheureusement, il aura de plus en plus de boulot, j'ai l'impression.
Voilà, et donc il regarde tous les travers des Américains, toutes les horreurs qui se passent dans un des États les plus pauvres des États-Unis. Et évidemment, Dave Robichaud va s'en prendre une fois plein la gueule. là, il va se battre sur tous les fronts. Parce que ça va pas dans la famille. Alistair, sa fille adoptive, s'y prend d'un moins que rien. Ça va pas dans, dans ses amis. Son meilleur ami, Clyde, qu'on suit aussi depuis ses débuts, eh bien, il va faire une faute professionnelle. Et puis, évidemment, ça va pas dans son enquête, parce que ce qu'il découvre, eh bien, c'est laid. Une plongée, encore une fois, dans l'Amérique qu'on ne voit pas, dans l'Amérique des laissés pour compte, en particulier dans cette Louisiane qui est encore ravagée par Katrina, mais aussi par tous les désastres écologiques. Et tout ça, c'est toujours aux mains des mêmes salauds. Ce livre, indispensable et salutaire. On termine, Jacques, le tour de Paillot Rivage ?
Oui, avec un roman de Dominique Format. Et excellente idée d'avoir réédité ce roman de Dominique Format qui datait quand même 2008 ou 2009, ça fait un moment. Il s'appelle Scud, comme disque un peu à l'envers. Et donc Dominique Format est un passionné de musique, de cinéma. Et là, il nous plonge dans une intrigue dans le milieu du rock de la fin des années 70. En fait, le début du punk jusqu'à l'explosion du CD. Son personnage, c'est Johnny Trouble. Et Johnny Trouble, c'est un surnom bien évidemment. Lui, c'est un spécialiste des disques de concert, des disques pirates de concert, ou des disques de concert pirates. Et en vinyle, bien évidemment, à l'époque. Et Johnny Trouble est vraiment très bon pour réaliser ses enregistrements et les revendre et faire des magnifiques pochettes. Et il gagne beaucoup d'argent et il fait beaucoup de jaloux. Il va avoir pas mal d'histoires. Il va être éjecté du milieu et il va le revenir se venger d'une façon que je ne vous dis pas parce que vous allez la découvrir dans Scud.
Johnny Trouble, l'Edmond Dantès du vinyle.
Voilà, peut-être pas tout à fait, mais enfin, il y a quand même quelque chose.
Voilà, dans un tout autre genre. Dernière réédition chez Paillot Rivage, les chroniques cinéma de Jean-Patrick Manchette. Là, on n'est pas dans le roman, hein, comme je viens de vous le dire, ce sont des chroniques cinéma. En effet, l'auteur de Nada et du Petit Bleu de la Côte Ouest était un grand amoureux du cinéma. Il en a fait, il a été scénariste, il a fait des... Voilà, et donc là, Paillot Rivage a eu l'excellente idée de rassembler les chroniques qui étaient parues à l'époque dans Charlie Mensuel. Elles sont rassemblé sous l'œil vigilant, dirais-je, de son fils, du fils de Jean-Patrick Manchette, qui s'appelle Doug Headline. Alors en charge de collection, Folio Policier. L'amateur de romans d'espionnage va fondre sur L'Appel du Mort de John le Carré. C'est un des romans où on retrouve son personnage George Smiley, des services secrets britanniques, et tous les ingrédients qui a fait de l'écrivain britannique le maître du genre.
Ouais. Et donc c'est une vieillerie, certes, quand même qui date de la fin des années 40, des débuts des années 50, mais qui était traduit à l'époque par Marcel Duhamel, le directeur de la collection, himself.
C'était lui d'ailleurs qui traduisait pratiquement tous les Américains, ou anglais, parce qu'il a traduit beaucoup d'anglais au début. Autre vieillerie ressortie, magnifique apparemment.
Oui, un excellent roman de Jacques Vance. Alors vous allez me dire, oui, Jacques Vance, c'est surtout un auteur de science-fiction, effectivement. Mais il a quand même commis, en 1973, un polar. Alors à ma connaissance, c'est le seul, mais il y en a peut-être d'autres. Un polar fort goûteux qui s'appelle Méchant Garçon. Alors ça met en scène un jeune homme, un ado un peu gros, un petit garçon à sa maman. Et à un moment, au début du roman, il viole, puis tue une de ses camarades de lycée. C'est pas terrible, il faut bien dire. Sa mère, elle, qui veut pas le voir partir ni partir en prison, le cache dans un petit appentis qui est fait sous l'escalier, tout avec tout confort, salle de bain et tout. Quelques mois plus tard, sa mère décède et lui reste toujours planqué sous l'escalier. Et une famille avec trois jeunes filles arrive dans la maison. Aménage avec leurs parents, et lui il va commencer évidemment à fantasmer sur ces jeunes femmes. Mais je peux pas vous en dire plus. C'est un polar, comme je pourrais dire, perfide et un très beau suspense qui mériterait malgré tout qu'on nettoie un petit peu la traduction.
Peut-être, comme tu en parles, on dirait le scénario d'un film, pratiquement.
Tout à fait.
Toujours chez Folio Policier, on change complètement de genre, pour parler de la dernière chronique de Célestin Louise. Célestin Louise, c'était le personnage de Thierry Bourcy, que l'on avait suivi pendant les années de la Grande Guerre. 5 romans, hein, 14, 15, 16, 17, 18. Le flic qui part dans les tranchées et qui est amené quand même à résoudre des intrigues, des crimes. eh bien, on le retrouve. Thierry Boursy n'a pas pu complètement l'abandonner. On le retrouve brisé, cabossé, mais vivant, en 1919.
Voilà.
Par contre, on ne sait pas pour combien de temps.
Eh bien, en fait, il embarque à bord d'un bateau, parce que le roman, qui n'a pas dit son nom.
Donc, ça s'appelle « Les ombres du Rochambeau ».
Et voilà, le Rochambeau, c'est un paquebot, et en fait, il embarque pour un nouveau boulot aux États-Unis.
Enfin classique, mais peu connu, « Quelques nouvelles exotiques », c'est le titre du recueil de nouvelles, « Nouvelles exotiques » de Georges Simenon, pour les fans. On passe au Poinçail. Poinçail a l'excellente idée, je ne pensais pas que ça allait ressortir très vite, mais Poinçail réédite le premier roman de Karen Campbell, qui était passé, on doit le dire, un peu inaperçu, mais un très beau roman. Un roman qui s'appelle « Les trottoirs du crépuscule » et qui nous montre les bas-fonds de Glasgow sous les pas d'Anne Cameron, qui est flic, et qui est promu à la tête des Flexis. Les Flexis, c'est une brigade de forte tête. En gros, c'est un roman très glauque qui va nous amener de cauchemar en désespoir. Et c'est le quotidien d'une femme, même de plusieurs femmes, dans les quartiers des putes et des trafics en tout genre dans la ville écossaise et où, en gros, les femmes en prennent plein la tête, tant au figuré que dans la réalité. C'est très noir et très bien mené. Autre premier roman que nous avions découvert il y a peu, je crois que c'est l'année dernière, chez Métayer, c'est un roman qui s'appelle « Ce qui n'est pas écrit ». C'est de l'écrivain espagnol Rafael Reg. Une plongée glaçante dans les méandres de l'amour filial et des affres des relations parents-enfants. Trois jours dans la montagne pour Carlos et son fils qui tentent de renouer avec cet adolescent des relations qui étaient plutôt tendues ou distendues. Il ne le connaît pratiquement plus après sa séparation avec la mère de l'enfant. Et alternativement, on voit aussi le récit de la maman qui est restée, elle, dans la grande ville et qui se fait beaucoup de soucis. Pour le père peut-être pas, mais pour l'enfant, c'est sûr. Ça va les conduire tous les trois très très près de l'abîme.
Un livre de poche encore chez Poinçail, un gros livre de poche qui d'ailleurs ne doit pas rentrer dans beaucoup de poches. C'est la réédition du Baltimore de David Simon, celui qui a écrit ensuite The Wire, donc Sur Écoute en français, et puis Trémé, les séries.
C'est les séries.
Voilà, 981 pages, presque 5 cm d'épaisseur. C'est un récit plus qu'un roman en fait, puisqu'en fait David Simon, qui est journaliste au départ, relate l'année complète qu'il a passée en 98, ça fait presque 20 ans maintenant, avec les flics de la criminelle de sa ville de Baltimore, dans le Maryland. Donc, il n'y a pas véritablement d'intrigue, c'est pas un journal non plus, parce qu'il a vraiment un vrai talent pour raconter et les gens, et décrire les personnages, et il a un sens du récit qui est vraiment assez impressionnant, qu'on a d'ailleurs revu dans les séries. Et en fait, ce pavé se lit très très facilement, même si c'est quand même très gros. Et pourtant, si se lit facilement, on est quand même très très loin du conte de fées ou de la chic littérature.
On va passer à un autre éditeur, chez Pocket.
Peut-être un peu de musique.
Ah, peut-être un peu de musique, c'est très court alors, parce qu'on a encore quelques livres à vous parler.
Une petite pause musicale, donc quelques mesures d'une chanson chantée par Paul McCartney tout à fait récemment à Marseille. Je ne vous dis même pas ce que c'est, comme ça vous la reconnaîtrez de toute façon.
Oh yeah.
Par exemple.
Thank you.
passe chez Pocket, m'as-tu dit.
Voilà, on passe chez Pocket et j'allais te le dire puisque c'est toi qui a pointé quelques rééditions fort convenables.
Donc
ma foi.
Voilà, après ces quelques notes de Paul McCartney, nous allons passer à un roman chez Pocket de Marie Van Moor. C'est son premier roman, ça s'appelle Petite Louve. Et ça raconte comment une mère va tout faire pour protéger et venger sa jeune fille qui a été violée, quitte à perdre tout le reste de sa famille. On va avoir une longue virée en Provence, sur la Côte d'Azur, et surtout en Corse, où la beauté des paysages, très très bien rendue, n'exclura pas, bien au contraire, une violence que l'on peut qualifier de sourde. C'est un premier roman vraiment étonnant de maturité, très très recommandable.
Et très très noir.
Très noir, ah oui, ça c'est très noir malgré le bleu du ciel corse.
Autre découverte.
Autre découverte, donc un premier roman de Dinis Gallos qui s'appelle Gokhan. Imaginez un jeune prof de la Sorbonne, nommé, cela ne s'invente pas, Jean-Luc Ponty, comme le violoniste de Frank Zappa. Donc ce jeune prof de la Sorbonne qui doit, lors d'un séjour universitaire à Tokyo, il doit voler dans un bar assez chic, la bouteille de saké qui est réservée à Quentin Tarantino. Quentin. Et là, vous aurez un polar tarantinesque, avec tous les clins d'œil d'usage, aussi bien au cinéma que au manga, etc. Par exemple, Yakuza qui veut absolument se couper le doigt pour faire allégeance à son chef. Mais il y en aura bien d'autres, et bien drôles. C'est très bien fait. Donc, c'est absolument recommandé de lire Dinis Gallos, qui est aussi traducteur de son état quand il n'écrit pas ses propres romans.
Voilà, c'est un roman qui s'appelle Gokhan.
Gokhan.
On va finir notre tour par le livre de poche, avec deux romans dont Jacques va nous parler. Le premier, eh bien, c'est pas très loin d'ici, me semble-t-il.
Le premier, c'est pas très loin d'ici, c'est un roman de Jean Contrucci qui s'appelle La vengeance du roi soleil. Alors Jean Contrucci avait abandonné donc dans son cycle de Raoul Signoret un moment pour un roman historique qui est resté polar parce qu'il y a des meurtres, des morts. Donc. Et en fait, ce roman nous raconte la rébellion de Marseille envers les nobles de la ville et envers le roi Louis XIV. On apprendra au travers des aventures de Guillaume de Montmirail, donc vous connaissez peut-être les dentelles, pourquoi le fort Saint-Nicolas à Marseille, en sortant du Vieux-Port, est tourné vers la ville et non pas vers la mer. Il faut dire que Louis le XIVe n'aimait pas tellement qu'on se moquât de lui.
Oui, puis il n'avait pas grand-chose à faire de la populace, disons.
Voilà, on peut dire ça comme ça aussi.
Enfin, on repart très loin, là.
On repart très loin avec un roman de Boris Kersia qui s'appelle Les rues de Santiago. Alors, les rues de Santiago sont à la fois celles de Santiago, donc Santiago du Chili, mais aussi celle du flic qui s'appelle Santiago Quiñones. Tout début du roman, lors d'une planque, il tue un jeune truand de 15 ans. Et du coup, il est très démoralisé. Il va déambuler dans sa ville, dans ses rues, l'âme en peine, pourrait-on dire. Mais voilà, l'apparition de Emma, qu'on sent être une femme fatale, pardon, va changer un tout petit bout de son destin. Entre polar et roman noir, avec toute l'humanité et l'empathie envers les petites gens, que savent si bien rendre les auteurs espagnols ou latino-américains. Encore un premier roman, déjà très mature.
Et un roman qui était paru
aux éditions Asphalt.
Voilà. Asphalt, tout à fait. Donc, il faut aller chercher le roman d'Asphalt.
Très recommandable.
Très recommandable aussi. Voilà, je crois qu'on a recommandé, c'est un mot qu'on a peut-être employé un petit peu trop souvent.
C'est vrai, mais voilà.
Bon, il fallait le dire. Donc, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission pour quelques nouveautés très recommandable.
Exactement.